Il y avait ce chant qui parlait d'un père. Alors nous, nous avons un père formidable, mais parfois les pères qui veulent trop bien faire ne font pas toujours bien. Et puis il était question aussi d'un Dieu tout-puissant qui guérit les cœurs et les corps, alléluia quand même. Mais savez-vous que les souffrances du cœur sont souvent plus grandes que les souffrances du corps? Je ne vois jamais Jésus se plaindre du fouet, de la couronne d'épines, des gifles et des coups de poing, des clous. Par contre, je vois Jésus dire « Mais vous n'avez pu rester une heure avec moi, souffrance affective, se sentir seul. » Je vois Jésus dire « Je suis triste jusqu'à la mort, souffrance psychique. » Ésaïe dit qu'il a été emporté par l'angoisse et par le châtiment. Ceux qui ont connu la dépression savent ce que cela signifie. L'angoisse, la tristesse jusqu'à la mort. Et puis, le Seigneur dira enfin « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Souffrance spirituelle. Ce sont les trois souffrances qu'il exprime. Affective, psychique, spirituelle. Elles sont bien plus grandes que les souffrances physiques. Nous allons voir comment le Seigneur, parfois, résout certaines de ses souffrances. Il les résout toutes, hein ? Mais on ne va pas toutes les voir ce matin. Je ne suis pas sûr que vous ayez envie de faire un jeûne et prière jusqu'à ce soir. Alors on va lire dans l'Évangile selon Marc au chapitre 5 au verset 22. J'espère que les Écritures seront suffisamment grandes. Mais en tout cas, je lirai pour vous. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus, qui ayant aperçu Jésus se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit ? Et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talita kumi », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Amen. Alors c'est un texte que nous connaissons. C'est une histoire que nous connaissons, que nous utilisons souvent pour annoncer l'Évangile. Il y a tout ici. Il y a une démonstration de puissance de l'Éternel. Le Seigneur Jésus pose ses mains, ou plutôt cette femme vient toucher le bord de son vêtement. Il y a la compassion du Seigneur Jésus qui se met en œuvre. Cette symbolique du bord du vêtement, cet acte de foi qui permet à cette personne d'entendre « ta foi t'a sauvé ». C'est énorme. Il y a cette symbolique aussi de la foi qui s'accroche. Ce papa qui brave la foule, qui va chercher Jésus, qui entend « ta fille est morte, laisse tomber », mais il préfère entendre la parole de Jésus qui lui dit « ne crains point, crois seulement ». Alors il s'accroche à cette foi-là. Il y a tellement à dire. Et puis, cette résurrection de la fille de Jaïrus, quelle belle occasion pour proclamer que Jésus est la vie, que Jésus lui-même et la résurrection, que Jésus lui-même est ressuscité. La parole de Dieu nous dit qu'il était impossible que la mort le retienne. Ça, c'est formidable. On a tous vu au moins une fois une série hospitalière. En ce moment, ils ne savent plus faire autre chose à la télé. Hein. Et vous savez, allez, vous chargez à 200, poum, écartez-vous. Mais quand la vie s'arrête. Et à un moment, heure du décès, 10h47. J'espère que personne, que tout le monde se sent bien hein, ce matin. Et là, c'est terminé. On ne peut pas revenir en arrière. Mais Jésus est plus fort que ça. Quand Jésus dit non, ça n'est pas la mort qui gagne, c'est la vie qui gagne. Je me souviens de l'histoire d'un frère. Il était pasteur sur Amiens à l'époque et il est appelé par une sœur qui lui dit « Écoutez, mon mari est mort hier soir à l'hôpital, est-ce que vous pouvez m'emmener à l'hôpital ? Faut que j'amène un costume pour qu'il le prépare pour... » Et le frère d'arriver avec cette sœur âgée dans la chambre d'hôpital et de trouver le mari assis dans son lit en disant « Je vous ai attendu ». Alors ils sont allés chercher une infirmière, je crois qu'il y a un problème. Parce que vous avez dit à madame que le monsieur, il était mort. Bah oui, il était mort. Ah bah il l'est plus. Mais est-ce que la petite mamie, elle avait passé sa nuit à prier en disant « Mais Seigneur, comment je vais faire sans mon mari ?» Alors l'infirmière est allée chercher le chirurgien. « Docteur, il y a un problème. » Et le chirurgien de rentrer dans la chambre, il est devenu blême. Il est ressorti, il s'est adressé au pasteur, il a dit « J'ai un gros problème. » Parce que le monsieur, il est mort sur le billard hier. Mais comme il était mort, on l'a saucissonné vite fait, on l'a recousu à la va-vite, mais dedans, on n'a rien rebranché. Donc avec tout ce qui est coupé et pas rebranché, il ne peut pas vivre. Donc ils ont dû le ramener au bloc opératoire immédiatement pour rebrancher tout ce qu'ils n'avaient pas rebranché. Dieu est grand. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Que son nom soit béni. Allez, je reviens à cette femme, à la perte de sang et à cette fille de Jaïrus. Deux épisodes qui sont entremêlés, aussi bien dans l'évangile selon Marc que dans l'évangile selon Luc. Jamais on ne parle de la fille de Jaïrus sans parler de cette femme, jamais on ne parle de cette femme sans parler de la fille de Jaïrus. Certains exégètes ont supposé que cette femme était peut-être la maman de la jeune fille, parce que 12 ans quand même, la perte de sang datait peut-être de l'accouchement. Mais ce ne sont que des suppositions, rien ne permet de l'affirmer. Ce que l'on peut affirmer toutefois, c'est que pour ces deux personnes, le Seigneur Jésus va les restaurer dans leur féminité. Pour ces deux personnes, nous allons aller un peu plus loin. Le Seigneur est venu sauver aussi bien des hommes que des femmes. Mes frères, n'oubliez jamais que celle qui est à vos côtés, le Seigneur est mort pour elle et qu'il prendra sa défense si elle est traitée injustement. Je me souviens d'une fois dans une visite, c'était pas en Midi-Pyrénées, parce qu'en Midi-Pyrénées, tous les maris chrétiens sont formidables. Les femmes rient, les hommes ne parlent plus. On va prier pour vous, mes frères. Mes sœurs aussi, du coup. Et dans une visite, le frère parlait et puis la sœur a commencé à dire un mot. Et là, j'ai entendu une phrase qui m'a glacé. « Tais-toi, bobonne, c'est moi qui parle. » Les bras m'en sont tombés. Les femmes ont leur place dans le cœur du Seigneur tout autant que les hommes, le savez-vous, mes frères et sœurs. Elles ont leur place dans l'œuvre de Dieu tout autant que les hommes. Pas la même place, mais elles ont leur place. Et les hommes n'ont pas la même place que les femmes, mais ils ont leur place. Il n'y a pas d'égalité, il y a complémentarité. Mais le Seigneur Jésus veut que les femmes soient traitées correctement et qu'elles puissent s'épanouir. La femme n'est pas l'esclave de l'homme. Et Jésus restaure les femmes dont la féminité est en souffrance. Pour cette femme atteinte de perte de sang, il faut bien considérer ce que cela voulait dire. Tout d'abord, elle n'avait plus droit à une vie sociale. Elle était impure. Donc déjà, en allant sur la place publique, elle était en pleine transgression de la loi de Moïse. Elle n'avait pas le droit d'être au contact des autres. Mais, permettez-moi aussi ce détail, elle ne pouvait plus avoir d'intimité avec son mari. Parce que quand une femme avait une perte de sang, eh bien, elle ne devait pas avoir de relation avec son mari pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Mais Jésus va prendre les choses à cœur et il va la guérir. Vous savez, parfois nous avons notre idée des sujets qui sont bibliques et de ceux qui ne le sont pas. Ah oui, on ne parle pas de ces choses dans l'Église. Bah si, puisque la Bible en parle. Jésus va prendre la situation sociale et maritale de cette femme à cœur. Il va la restaurer dans son identité de femme. Mais il y a d'autres exemples. Quand Marie de Magdala, prostituée, rejetée de tout, jugée par tout le monde, vient pleurer sur ses pieds, Jésus va la restaurer au point qu'il va l'élever plus haut que le religieux qui le reçoit ce midi-là. Dans Luc chapitre 7, verset 44, il est écrit ceci, puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. » Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Ça bouscule notre fonctionnement. ça bouscule nos réflexes, et même nos réflexes de chrétiens évangéliques. Si nous recevons dans nos réunions une dame qui, par sa tenue, témoigne de son métier qui pourrait être celui de Marie de Magdala, est-ce que nous allons comprendre que peut-être le Seigneur ce jour-là l'élève plus haut que d'autres que nous croyons spirituels ? Je me souviens d'un jour, alors c'était en Normandie, et autant vous dire que le voile pour les femmes, la jupe jusqu'aux chevilles et les cheveux jusqu'en bas du dos étaient la règle. Et je vois une femme rentrer dans une réunion d'évangélisation, je conduisais les chants et elle avait une jupe, moi j'appelle ça une ceinture quand c'est aussi peu large, et un décolleté qui laissait voir son nombril aussi. Et j'ai eu peur pour elle. Je me suis dit, pourvu qu'il n'y ait pas une mamie bien intentionnée qui vienne lui donner une bâche. Et je conduisais les chants, et au bout d'un ou deux chants, j'ai vu cette femme qui commençait à tenir son décolleté et à tirer sur sa jupe. Là, c'était le Saint-Esprit qui lui avait dit. Et vous savez que quand le Saint-Esprit dit les choses, il les dit mieux que nous. Son cœur était touché par la présence de Dieu. Elle n'avait pas besoin qu'on lui dise. Mais c'est le Seigneur qui est venu lui parler. C'est le Seigneur qui est venu lui faire du bien. C'est ce qui s'est passé pour Marie de Magdala. Messieurs, mes sœurs, quelle que soit votre vie, quelles qu'aient été vos expériences, votre féminité est précieuse aux yeux de Dieu. Votre féminité est précieuse aux yeux de Dieu. Il la respecte et si elle est en souffrance, il veut la restaurer. Votre épanouissement est important aux yeux de Dieu, pourvu qu'il le soit également aux yeux de votre époux. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Et mes frères et sœurs, en arrivant à Montauban, on a été effarés. Il y a plein de bonnes choses à Montauban. Mais de voir le nombre de couples en divorcés dans l'église. Et quand plus on faisait des visites, plus on entendait parler d'adultère. Alors on a commencé à faire des instructions de mariage. Bah oui, on s'est dit, ceux qui ne sont pas mariés, au moins on va les préparer pour qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs. Et vous savez, bien des fois, on va fustiger une sœur parce qu'elle a eu un accident de parcours, et c'est sûr que ce n'est pas bien. Mais si son mari s'était correctement occupé d'elle, peut-être qu'il n'y aurait pas eu l'accident de parcours. Je ferme la parenthèse. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. C'est le cri de désespoir de ce papa. Mais derrière ce cri de désespoir, il y a des anomalies. Il y a des anomalies, parce qu'à cette époque-là, un papa éventuellement s'occupait de ses fils quand il devenait grand, mais un papa ne s'occupait pas de sa fille. D'autant plus un chef de la synagogue. Et là, on se dit qu'il y a un premier déséquilibre. Et puis, il y a un deuxième déséquilibre. C'est que la maman, elle n'est pas là pour venir demander à Jésus. Et le papa ne dit pas « notre fille », il dit « ma petite fille à moi, le bébé à son papa ». Où est la mère ? Et puis, il y a une autre anomalie, c'est que cette jeune fille à 12 ans, ça n'est plus une petite fille. Je vous rappelle pour mémoire qu'à 12 ans, Jésus est rentré dans le temple et qu'il a commencé à parler avec les docteurs de la loi et qu'il était légitime pour le faire, non pas parce qu'il était fils de Dieu, mais parce qu'un enfant de 12 ans rentrait dans la communauté des adultes. S'il y a des enfants de 12 ans, calmez-vous, c'est plus vrai. Hein. Non, mais parce que des fois... Mais si, c'est le pasteur qui l'a dit. Ne me mets pas ça sur le dos. À 12 ans, cette jeune fille est empêchée de grandir par son papa. Elle est empêchée de grandir par son papa qui veut garder sa petite fille à lui. Alors oubliez l'âge de 12 ans, mais mes frères et sœurs, n'oubliez jamais que nos enfants ne sont pas à nous. Oui, le Seigneur dit « Toutes les âmes sont à moi », donc celles de nos enfants aussi. Et qu'à un moment, quand nos enfants veulent prendre leur envol, même s'ils se trompent, nous les avertissons, mais laissons-leur le droit à l'erreur. Nous en avons commis et nous avons appris, béni soit Dieu. Mais nous, nos enfants ne sont pas notre propriété. La relation entre Jaïrus et sa fille est une relation possessive, une relation exagérée, une relation qui ne laisse aucune place à la maman. Alors le Seigneur doit prendre les choses en main. Remarquez qu'il est fait mention de la maman qu'à partir du moment où le Seigneur intervient. Il prie avec lui le père et la mère de l'enfant. Venez, madame, vous aussi, vous avez le droit. Il ne veut pas qu'elle soit mise de côté, cette maman. Il la prend avec lui. Et puis, regardez ce contraste étonnant entre ce papa qui dit « ma petite fille, mon bébé » et Jésus qui dit « jeune fille, lève-toi ». Jeune fille, lève-toi. Et il ne dit pas aux parents « désormais, il va falloir lui dire ce qu'elle a à faire ». Non, non, nourrissez-la. Tant qu'elle est chez vous, maintenant c'est votre responsabilité, vous la nourrissez. Pour le reste, elle est devenue grande. Je mets ça avec beaucoup de guillemets. Laissez-la vivre. Laissez-la vivre. Une petite fille est morte et une jeune fille se lève. Il a fallu que le papa accepte la mort de l'enfant et l'entrée dans la vie de la jeune fille. Il a fallu passer par cette restauration de la féminité de cette... Elle n'est plus enfant, elle est jeune fille. À 12 ans, sans doute, est-elle déjà formée? C'est une jeune fille. Il y a des choses que les papas peuvent faire. Il y a des choses où, à un moment, où les papas n'ont plus à s'en occuper. Je vais vous faire une confidence. Nous avons 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Ils sont grands maintenant. Mais c'est jamais papa qui est allé acheter le premier soutien-gorge de ses filles. Oui, elles deviennent des jeunes filles, c'est entre femmes que ça se passe. C'est pas papa non plus qui disait à ses filles « tu préfères qu'on achète des tampons ou des serviettes ». Ça, c'est des choses que maman gère. Pardonnez-moi, mais c'est la vie, on est d'accord. Ah oui, mais on n'en parle jamais. C'est peut-être ça le problème, alors finalement. C'est peut-être ça le problème. Paul écrit aux Corinthiens, dans la première, au chapitre 13, au verset 11, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Je voudrais aborder un dernier point avec vous qui peut-être est un peu psychanalytique et vous me pardonnerez, mais il se trouve que je l'ai expérimenté avec quelqu'un qui avait vécu des choses difficiles dans son enfance. Vous savez, il y a une vieille légende à laquelle il faut couper le cou, c'est que le jour où on s'est donné à Jésus, tous les problèmes ont été résolus. Alors je vais vous donner un exemple très simple. Oui, j'ai vu des personnes qui, atteintes d'une maladie grave, se convertissaient au Seigneur et étaient guéries miraculeusement, et je dis « Alléluia !» C'est une grâce quand même. J'ai vu où j'ai entendu des situations absolument miraculeuses. Quelqu'un que l'on portait, qu'on emmenait en fauteuil jusqu'à l'estrade, que l'on portait dans le baptistère, et qui, une fois qu'elle avait été baptisée, se relevait toute seule et repartait à pied. Alléluia ! Mais j'ai aussi vu des personnes qui, atteintes de leur maladie, se donnaient au Seigneur de tout leur cœur, étaient baptisées avec un témoignage magnifique, et qui, quelques semaines après, rejoignaient leur Seigneur dans l'éternité. Eh bien, pour les guérisons du cœur, c'est comme pour les guérisons du corps. Il y a des choses qui sont réglées à la conversion, et merci Seigneur pour toutes les fois où il guérit des choses à la conversion. Et puis parfois, cela dure. Parfois, cela traîne pendant des années, des décennies. Parfois, on traîne, pardonnez-moi, mais des casseroles et des boulets. Je pense à cette sœur en Normandie qui, à l'âge de 20 ans, a perdu son mari alors qu'elle était enceinte de son premier bébé. À 60 ans, elle n'était pas encore guérie de son deuil. Et c'est à 60 ans, sur une parole particulière du Seigneur, que son âme a été guérie de son deuil. Vous imaginez, pendant 40 ans. Et elle ne s'en est même pas rendue compte quand le Seigneur l'a guérie. Mais un samedi après-midi, elle était allée ramasser des coquillages avec sa fille, celle dont elle était enceinte 40 ans plus tôt. Et elle lui a dit, mais c'est incroyable comme tu as les mains de ton père. Et la fille s'est mise à pleurer. Elle dit, mais qu'est-ce que j'ai dit? Et sa fille de lui dire, mais maman, j'ai bientôt 40 ans, c'est la première fois que tu me parles de papa. Et là, elle a dit, oh, ouais, le Seigneur m'a guéri. Waouh. 40 ans de souffrance. J'ai expérimenté donc cette parole de la fille de Jaïrus avec une personne qui avait vécu des choses difficiles dans son enfance. Des abus qui n'auraient jamais dû avoir lieu. Et ça aussi, c'est un sujet dont on ne parle pas souvent, hein. Et puis quand on en parle, bah d'un seul coup, il y a une sœur, un frère, d'autres sœurs, un jeune depuis beaucoup plus longtemps que les autres, qui viennent voir et qui disent, pasteur, moi aussi ça m'est arrivé. Moi aussi ça m'est arrivé. Moi aussi j'avais un voisin aux mains baladeuses, où j'avais un tonton qui ne savait pas s'arrêter, où j'avais un papy, où j'avais... Et cette femme portait cette souffrance depuis des dizaines d'années, elle n'arrivait pas à s'en sortir. Alors nous avons lu ce texte ensemble, cette histoire de la fille de Jaïrus, et j'avais reçu ça dans mon cœur, je l'ai partagé avec cette femme, je dis, je crois qu'il y a un moment où il faut laisser partir le petit enfant. Il faut laisser partir le petit enfant avec ses souffrances pour naître dans la féminité d'adulte. Laisser les souffrances et les tortures de l'âme derrière soi, les laisser mourir avec le passé. Et puis rentrer dans une vie où on est débarrassé de ces choses. C'est une forme de résurrection. Et à ce moment-là, cette personne de me dire « Oui, je comprends, je le ressens, la petite fille n'est plus, elle ne souffre plus, elle est en paix, alléluia ! Alléluia ! » Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant, dit Paul. Est-ce que nous pouvons dire, lorsque je suis devenu femme, je vous prête ces mots, mesdames, rassurez-vous, ça n'est pas moi qui l'ai dit. Lorsque je suis devenu femme, j'ai fait disparaître ce qui était de la petite fille. Savoir à un moment que le Seigneur est prêt à nous faire passer à autre chose. À une vie où on ne traîne plus les souffrances du passé, où on ne traîne plus ces casseroles qui nous font mal. Parfois, ce sont des choses moins graves que cela. Je travaillais avec un jeune que je faisais rentrer dans le ministère et chaque fois que je lui faisais une remarque, je le sentais tétanisé. Et j'ai pensé à cette fille de Jaïrus et je lui ai dit, tu sais, à un moment, il faut que tu laisses mourir le petit garçon qui a peur d'avoir une mauvaise note. Et là, il m'a dit, mais comment tu sais ça ? Le Saint-Esprit, il nous dit des trucs quand même des fois. Il me dit, oui, à la maison, c'était terrible. Quand je ramenais une mauvaise note, je savais que j'allais passer des moments absolument terribles. Et j'étais terrorisé. Et aujourd'hui, quand tu me demandes de préparer un message, quand tu me dis, tiens là, tu as fait un hors-sujet, là, tu n'as pas été précis sur la doctrine, parce qu'il me semble qu'il faut avoir cette exigence. On ne peut pas laisser, par amour, quelqu'un dérivé. Alors, tous ceux que j'ai fait travailler depuis des années dans l'œuvre de Dieu le savent. C'est qu'après chaque prédication, on débriefe. Pas forcément tout de suite à chaud, mais peut-être un ou deux jours après. Bon alors, qu'est-ce que tu as pensé de ton message ? Moi, j'ai noté deux, trois petites choses. As-tu remarqué, tu as dit ça à ce moment-là ? Ah ouais, effectivement. Ah, c'était pas ce que je voulais dire. Ok, on travaille. Mais là, pour lui, c'était quelque chose de terrifiant, la moindre remarque. Je vais avoir une mauvaise note. Et du moment où je lui ai dit ça, il comprenait que les remarques étaient constructives, que c'était pas une punition. Vous voyez, des fois, on se bloque sur des choses. Des fois, il y a des choses comme ça qui nous traînent de l'enfance. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Alors éternellement, c'est pour après. Mais là, nous, on est aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vous demander de lever la main. Vous pouvez lever la main de votre cœur. Vous savez que votre cœur a des mains. Ouais, c'est les mains que vous levez sans que ça se voit quand il y a un appel particulier, mais que vous ne voulez pas que les autres le sachent. Peut-être on pourrait fermer nos yeux, nous placer devant Dieu. Moi, j'ai l'immense avantage du haut de l'estrade de voir vos visages. Et plusieurs fois, j'ai vu des larmes. Plusieurs fois, j'ai vu des visages qui accusaient le coup. Et je sais que le Saint-Esprit ne se trompe pas. Il ne parle jamais aux absents. Et peut-être il y a quelqu'un ce matin qui a besoin de venir toucher le bord du vêtement de Jésus. Mais peut-être aussi qu'il y en a plusieurs qui ont besoin de laisser mourir une enfance douloureuse pour rentrer pleinement dans l'épanouissement avec le Seigneur. Mon frère, ma sœur, je veux te bénir au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur veut te ressusciter, te faire entrer dans une nouvelle vie. Il veut te débarrasser de ces choses. C'est plus possible que tu fasses bonne figure le jour et que tu pleures la nuit. C'est plus possible. Ma sœur, c'est plus possible que tu sois malheureuse dans ton couple parce que ta féminité, eh bien, tu n'arrives pas à la laisser s'épanouir. C'est plus possible. Le Seigneur nous a créés avec le dessein de nous rendre heureux et l'objectif de nous sauver. Alléluia. Et pour ces deux, pour ce dessein et pour cet objectif, le Seigneur Jésus a donné sa vie sur la croix. Tes souffrances, ton enfance douloureuse, elle est crucifiée à la croix. Ton manque d'épanouissement, tes larmes, elles sont crucifiées à la croix. Ce matin, le Seigneur veut t'ouvrir de nouveaux horizons. Il veut convaincre ton âme que ce que tu pensais impossible jusqu'à présent dans ta vie, parce que tu dis toujours « avec ce que j'ai vécu ». Avec ce que j'ai vécu, c'est pas possible. Mais avec le Seigneur Jésus, c'est possible. Alléluia. On prie le Seigneur ensemble, grand Dieu du ciel. Je veux bénir tes enfants, Seigneur, qui se sont reconnus. Au travers de cette parole, tous ceux qui ont dit « Mais c'est la première fois que j'entends parler de ça. Mais c'est moi, c'est ma vie. Seigneur, j'en peux plus, je crie à toi jour et nuit là-dessus. C'est trop dur, Seigneur. Mais Seigneur, je veux les bénir et te prier de leur donner cette vie épanouie, cette délivrance, cette guérison du cœur, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, merci parce que ta paix les envahit, ta consolation les remplit. Ton esprit agit, Seigneur, sur tes enfants ce matin. Ô Dieu, à toi seul la gloire, à toi seul la gloire, Seigneur. Seigneur, il y a de la joie dans les cœurs que tu libères. Sois béni, ô Dieu. T'adorons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.